Le journal Nazan Koko.
Célébration ce 23 juillet de la Journée nationale de la liberté de la presse en RDC. À cette occasion, la Corporation des journalistes congolais demande plus de sécurité pour les journalistes. Trois ont été assassinés en moins de deux mois. L'importation, l'exportation, la commercialisation des mitrailles ferreuses et non ferreuses suspendues dans le Katanga, c'est une décision du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe ce samedi dernier. Mesdames et messieurs, bonjour. La Journée nationale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui en RDC. À cette occasion, la Corporation des journalistes congolais veut interpeller le pouvoir public à plus de sécurité pour les journalistes. Trois journalistes ont été assassinés en RDC en moins de deux ans. Pour la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, ces crimes ne doivent pas rester impunis. Chantal Kanimbo estime aussi que le procès devrait aider à connaître les mobiles de ces assassinats.
En Guiqué, nous connaissons tous les arrêts. C'est quelques personnes qui ont été condamnées, mais la lumière n'a pas été faite sur les motivations de l'assassinat de Franck Guiqué et de son épouse. Et donc, nous estimons qu'il faudrait peut-être ouvrir un autre procès pour que nous puissions savoir pourquoi notre ami Franck Guiqué et son épouse ont été assassinés. Le procès de Bapoua Mamba est encore en cours. Le procès de Serge Maïssé, ça a été tellement rapide. On s'interroge sur l'enquête. Est-ce qu'on peut mener une enquête en 24 heures et trouver ceux qui ont tué Serge Maïssé? Ça, c'est bon, mais il fallait mener des investigations un peu plus loin pour en savoir davantage. Parce qu'un procès expéditif comme ça, ça peut laisser des zones d'ombre. Et donc, ceux qui sont derrière tous ces crimes, on ne les connaîtra pas et on ne connaîtra pas le mobile.
Chantal Kanimbo, présidente de l'Union de la presse du Congo, était jointe au téléphone par Georges Kamoujova. Le procès Serge Maïssé a repris ce lundi à Bukavu. Toutes les parties sont présentes, contrairement à la dernière séance de vendredi dernier, suspendue suite à l'absence des avocats de la défense. Il s'était désisté ce jour-là, reprochant au tribunal d'accorder plus de paroles aux autres parties. Le point sur l'audience à la mi-journée avec Jean Kassami qui suit pour nous ce procès.
Déjà une demi-heure avant la reprise de l'audience de ce lundi vers 10h30, toutes les parties étaient présentes au lieu du procès. Les avocats de la défense qui avaient boycotté l'audience de vendredi dernier ont répondu à l'appel. Ces derniers contestaient les déséquilibres qu'ils avaient constatés dans la répartition de la parole aux parties en présence. Selon les avocats du conseil de la défense, le tribunal accordait plus la parole au ministère public et à la partie civile au détriment de la défense. Aujourd'hui, les avocats de la défense espèrent que le tribunal est revenu au meilleur sentiment à travers un mémorial adressé à ses propos. Au cours de l'audience de ce lundi, le tribunal a légèrement modifié son ordre du jour sur demande du conseil de la défense. Un avocat du conseil a suggéré au tribunal d'épuiser les lots des questions destinées au prétendu assassin de Serge Maïssé avant de poursuivre l'audition des huit témoins encore en liste, ce qui a été accepté. Pour l'instant, le tribunal militaire de garnison de Bukavu poursuit l'interrogatoire des deux présumés qui ont avoué la fois dernière avoir tiré à bout portant sur les journalistes Serge Maïssé. En direct de la salle d'audience du tribunal militaire de garnison de Bukavu, Jean Kassami pour Radio Okapi.
Notons que c'est ce 23 juillet qu'a lieu la levée de deuil dans la famille de notre confrère Serge Maïssé à Bukavu. Une messe est programmée à 15h, heure locale à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Ngouba à Bukavu même, après quoi un verre de rafraîchissement sera offert à l'honneur des invités et proches du feu Serge Maïssé. Toujours à l'est du pays, un journaliste d'une radio communautaire dit du Nord attaqué vendredi dernier la nuit par 5 bandits. Le journaliste a eu la vie sauve en se jetant dans le lac Kivu en pleine nuit. Il a alors nagé pendant 5 heures dans le noir avant d'être sauvé par la population. L'information est livrée par la radio communautaire d'Idui et confirmée par les autorités territoriales. Province orientale, tous les organes des prestants audiovisuels que ceux de la presse écrite doivent être en règle vis-à-vis de l'État en deux mois. C'est l'ultimatum lancé hier dimanche à Kisangani par le chef de division provinciale de la presse et communication. C'était à l'occasion de la cérémonie marquant la célébration de la Journée nationale de la presse. Il a affirmé que 5,5% seulement des radios, télévisions et journaux des provinces orientales s'étaient conformés à leur cahier des charges. Dominique Lekakwa invite les irréguliers au respect de la loi régissant la presse en RDC. On l'écoute.
La presse, c'est une industrie qui produit des services comme toutes les autres industries. Par conséquent, elle est soumise à la loi du 22 juin 1996, organise cette matière. C'est ainsi que, lors de notre mission à Kinshasa, nous avons reçu des instructions précises de son Excellence, Monsieur le Ministre National de l'Information, Presse et Communication Nationale à ce sujet, consistant à ce qu'un délai de 2 mois soit donné à toute la presse de la province orientale pour se mettre en règle, ne sera subventionné que la presse qui sera en règle avec le pouvoir.
L'évêque anglican Monseigneur Funga Boutolomé, responsable de la radio-télévision Pêcheur d'Hommes, trouve cette mesure dangereuse. Le délai est trop court, estime le prélat protestant.
En tant que Congolais, je souhaite que toutes nos organisations soient en règle avec le gouvernement. Mais il se fait que nous, en tant qu'ASBL, nous sommes en difficulté de fonctionnement parce que la radio elle-même ne paye pas. Et prendre une telle mesure dans 2 mois, je trouve que la décision est tellement dangereuse que la plupart de nos radios risquent de fermer. Moi, je pense que les chefs de division pourraient plutôt prendre une attitude de tolérance et continuer à nous pousser à être en règle avec le gouvernement.
Ces propos ont été recueillis par Jacques Léon Mwamba. Jean-Pierre Bemba, engagé à ne plus recourir aux armes, le MLC et son parti l'a réaffirmé hier dimanche à la clôture de la convention tenue à Kinshasa depuis le vendredi dernier. Cette détermination de Jean-Pierre Bemba Gombo d'œuvrer dans l'opposition politique et son désir à regagner le pays ont été expliqués au micro de René Capita par François Mwamba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo.
L'opinion sait qu'avec le passage au Portugal et ensuite ici à Kinshasa de M. Louis Michel, il y a une évolution positive puisque désormais le sénateur Jean-Pierre Bemba a clarifié sa position en indiquant clairement son souhait de revenir au pays, en indiquant pourquoi il veut pouvoir poursuivre le travail d'opposition, en indiquant qu'il reconnaissait, au même titre que son parti, les résultats des scrutins qui ont eu lieu en 2006, ainsi que la légitimité des personnes qui animent les nouvelles institutions. Donc de ce côté-là, les choses sont désormais claires. Il a également tenu à clarifier par rapport à certaines rumeurs, en tout cas sa position par rapport à l'éventualité d'un retour en arrière en ce qui concerne l'utilisation de la violence. De la manière la plus claire, il a indiqué que son agenda est un agenda politique et qu'en aucun cas, il a l'intention de revenir en arrière. Mais vous savez, le retour de Jean-Pierre Bemba ne peut pas être un retour imposé, c'est un retour nécessairement négocié et que donc à ce stade, il appartient au chef de l'État de dire ce qu'il pense de ces nouvelles évolutions.
Kisombe Kiakumwisi n'est plus né le 26 novembre 1936 à Nkondo Matuba, dans le district de Cataracte, dans le Bas-Congo. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de cette province s'est éteint hier dimanche à Bruxelles, où il s'était rendu pour des soins médicaux. François Kimasi, président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, qui a confirmé la nouvelle, nous retrace ici son parcours comme homme d'affaires et homme politique. Il est joint au téléphone par René Capita.
Autodidacte, Kisombe a commencé sa vie dans le bricolage. Au milieu d'âge, Kisombe a constitué un groupe puissant économiquement. Dans cette même lancée, il a monté l'usine Usam qui a produit des meubles. Et il fonda l'empire qu'on appelle Sadissa, des grands magasins qu'il a étendu dans la ville de Kinshasa, dans le Bas-Congo, quand il décida de faire la politique et fait une entrée fracassante dans le bureau politique du MPR. Du bureau politique, il est passé au comité central du MPR, où il est resté longtemps. Il dirigea la ville de Kinshasa comme gouverneur. Il rentra au gouvernement communiste. Aux dernières élections, il sortit député national et député provincial. Mais il a choisi de servir à la province du Bas-Congo. Vice-président, j'ai eu à m'absenter et à mon retour, c'est la grande satisfaction que je peux dire qu'il a dirigé l'Assemblée. Pour un autodidacte, avouons, il faut le faire.
L'importation, l'exportation, la commercialisation des mitrailles ferreuses et non ferreuses sont suspendues au Katanga. Le gouverneur de la province du Katanga a signé samedi dernier un arrêté portant cette décision. Les constats faits par Moïse Katumbi Chapwe est que le vol des produits cuivreux a pris des proportions inquiétantes au Katanga. La décision tombe au moment où une dizaine de tonnes de produits ferreux et à base de cuivre viennent d'être volées. Paul Mounanga.
Au cours d'une perquisition effectuée samedi dernier dans un dépôt de Ali Badera, de nationalité libanaise, par les inspecteurs du parquet de grande instance de Kolwezi, ceux-ci ont découvert quelques morceaux de tuyaux de la régie des eaux et des fils en cuivre. Dans un autre dépôt appartenant à un Congolais surnommé Colonel, les inspecteurs ont retrouvé une dizaine de tuyaux. Le Libanais a été arrêté au même instant et acheminé au parquet de grande instance de Kolwezi. Le Congolais, lui, serait en fuite. Le directeur de la régie des eaux Kolwezi affirme pour sa part avoir perdu plus de 60 tuyaux sur la septantaine qu'elle détenait. Ces tuyaux étaient destinés à étendre les réseaux de distribution d'eau dans différents quartiers de la ville de Kolwezi. Un tuyau pèse entre 250 et 300 kilos et peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Certaines sources à Kolwezi indiquent que la matière qui constitue ces tuyaux est très recherchée à Kolwezi. Il s'agit de l'inox, une matière qui ne contacte jamais la rouille. Une tonne représente à peu près 4 tuyaux et coûterait entre 2500 et 3500 dollars américains. De Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, la carence en eau prend des proportions inquiétantes. La ville de Mbujima est privée d'eau potable depuis le week-end et la crise persiste. Un bidon de 20 litres d'eau se vend jusqu'à 600 francs congolais. Les ménagères n'ont plus de choix. Elles recourent à toute eau, des puits ou des rivières. La régie des eaux attribue cette situation au manque d'énergie électrique. Le point avec Christ Mukonde.
Devant la parcelle d'un opérateur économique de la ville qui a sa réserve d'eau grâce au forage d'un puits, c'est la bousculade. Femmes et jeunes filles jouent au coude. Elles doivent passer pour se procurer de l'eau. Certaines d'entre elles affirment être sur le site depuis l'aurore à 5 heures du matin, pendant que d'autres ont parcouru près de 15 km à pied, laissant seuls des bébés qui têtent encore. Nous souffrons beaucoup. Nous avons laissé des bébés qui pleurent. Nous sommes là depuis 6 heures du matin. Nous venons de loin, du côté Mbalawa Chitolo. À la maison, nous sommes nombreux. Demain, il nous faudra encore 2000 francs congolais au moins pour trouver de l'eau. Nos têtes sont incurvées à cause de la carence d'eau. Pendant ce temps, ailleurs et sur les principales artères, c'est à un défilé de ménagères qu'on assiste. Bassines, seaux, bidons jaunes à la main ou sous la tête, elles passent des journées entières à rechercher de l'eau potable. Du côté de la régie des eaux, l'explication reste la même, le déficit en énergie électrique. Et pourtant, au mois de juin dernier, la MONUC avait permis l'acheminement d'une turbine de Kinshasa à Mbujimayi via Kananga et Mweneditu pour un coût de 13 460 dollars américains. À la mi-journée, le gouverneur de province a réuni les responsables de la MIBA et de la régie des eaux pour une solution à cette crise. Les résolutions sont encore attendues. Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
À Mwanda, dans le Bas-Congo, les travailleurs journaliers des Perenco-Rep, habitant les villages de Kinkanzi et Liawenda, ont déclenché depuis hier un mouvement de protestation. Ils empêchent les employés de cette entreprise pétrolière d'accéder au site d'exploitation dans ces deux villages. Ces travailleurs journaliers réclament l'augmentation des salaires et la réalisation d'autres avantages sociaux. Radio Kapi à Matadi, Dani Kindanzita.
Une barrière érigée samedi dernier sur la route qui mène dans les villages Kinkazi et Liawenda, situés dans le territoire de Mwanda dans le Bas-Congo, empêche tout mouvement d'entrée et de sortie des véhicules et agents de la société pétrolière Perenco-Rep. Les manifestants revendiquent à corps et à cri l'augmentation de leurs salaires et d'autres avantages sociaux. Ces mouvements paralysent le bon fonctionnement et les contrôles de puits de pétrole. L'administrateur du territoire de Mwanda, Kualo Sele, a affirmé avoir été informé de cette situation. Des démarches sont en cours pour une rencontre entre les deux parties en vue d'une solution concertée. Le directeur général de Perenco-Rep est du même avis, mais il a émis le vœu de voir la rencontre se dérouler dans un lieu neutre. Mais les journaliers ne sont pas de cet avis. Ils souhaitent qu'elle ait lieu à Kinkazi ou à Liawenda. En attendant, les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans les deux villages pour protéger les installations du site pétrolier. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Un creuseur artisanal de diamants tué, un autre blessé vendredi dernier à 8 km de la cité de Tembo dans le Bandundu. Le village s'appelle Mawangu. Selon des témoins, trois policiers de garde de la société minière Sodimine ont tiré sur ces creuseurs de diamants. Fabien Kambinzi.
Selon les témoignages des habitants de la localité de Mawungu, trois policiers des gardes de la Sodimine auraient tiré sur les creusers à la suite d'une dispute à cause du carburant 75 litres d'essence que les creusers avaient fait garder chez les policiers et dont la restitution posait problème. Un certain commandant de police, Ngoto, aurait ordonné aux policiers de tirer sur ces creusers qui voulaient à tout prix les dénoncer auprès du fils du patron des Sodimine en séjour dans sa concession minière. Les vice-gouverneur de Bandundu qui confirme les faits, condamne cette attitude des policiers censés protéger la population et leurs biens et qui aujourd'hui se tournent contre la population. Contacté par Radio Okapi, les patrons de Sodimine qui se trouvaient à Kinshasa nient le fait tout en qualifiant ces gens de voleurs et non de créseurs reconnus par sa société. Signalons que les policiers auteurs de ces crimes sont déjà au verrou, nous a également précisé le vice-gouverneur de Bandundu. Kikwitu, Fadien Kambizi, Radio Okapi.
12h15 à Kinshasa, fin de cette édition d'information.